Heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'International. Vous êtes sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde pour une émission spéciale, exceptionnelle pourrait-on dire, puisque nous nous trouvons à Bamako, la capitale du Mali, et que c'est le président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka dans le monde entier, qui nous reçoit aujourd'hui. Nous allons avoir, Monsieur le Président, beaucoup de questions à vous poser en compagnie de Sophie Malibo de RFI sur la situation, notamment militaire de ce pays, situation politique, situation économique. Revenons peut-être sur ce qui a marqué l'actualité du Mali il y a plus d'un an maintenant, avec une présence forte, risquée également pour la capitale, de groupes terroristes et islamistes qui fondaient à nouveau sur la capitale de ce pays. Il y a eu, on s'en souvient, l'intervention de l'armée française, l'opération Serval. Nous allons commenter tout cela, l'état du pays, mais tout d'abord, rappel de ce qui s'est passé depuis 2 années dans ce pays.
Nous sommes le 22 mars 2012. Cette petite musique sur la télévision malienne annonce une interruption des programmes. Un groupe de militaires vient de prendre le pouvoir.
A décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré.
Incompétent car incapable à leurs yeux de venir à bout de la rébellion Touareg et des islamistes armés qui sévissent dans le nord du Mali, lourdement armés après le pillage des casernes militaires de l'ancien régime libyen. Le chaos né de ce coup d'état militaire permet aux rebelles de progresser vers le sud. Le 6 avril, le MNLA proclame l'indépendance de la région de l'Azawad.
Nous avons le droit à la liberté, à l'indépendance.
Le Nord Mali devient une zone de non-droit que finissent par se disputer les Touaregs, les groupes islamistes et trafiquants en tout genre. Très vite, Gao, Kidal ou Tombouctou sont reprises par les groupes islamistes armés. Ils y imposent la charia, multiplient les exactions. Entre-temps, sur la scène politique, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Diokounda Traoré, est nommé président par intérim, à charge pour lui d'organiser des élections. Le 10 janvier 2013, les islamistes se rapprochent de Bamako. Le lendemain, à la demande des autorités maliennes et dans le cadre d'une résolution onusienne, la France intervient militairement.
Vous demandez ce qu'on va faire des terroristes si on les retrouvait ? Les détruire ?
L'opération Serval permet de reconquérir les villes du nord, de traquer jusque dans les massifs montagneux des Iforas les groupes islamistes armés. Le 1er juillet, la MINUSMA voit le jour, 12 600 casques bleus déployés à terme dans le pays. Et au cœur de l'été, les Maliens sont appelés aux urnes pour la présidentielle. À la rentrée, leur nouveau président prête serment, Ibrahim Boubacar Keïta, élu avec plus de 77% des voix. Les législatives du mois de décembre et la victoire des partis présidentiels scellent le retour à l'ordre constitutionnel. Mais la situation dans le nord est loin d'être réglée. Pouvoir malien et rebelles Touareg tentent toujours de trouver un accord sur le statut politique de la région. Pour la France, l'opération Serval prend fin au mois de juillet 2014 au profit de Barkhane. Même effectif, même objectif, la lutte contre le terrorisme, mais cette fois-ci sur un territoire beaucoup plus vaste, à cheval sur 5 pays de la région sahélienne.
Monsieur le Président, merci donc de nous recevoir. On vient de voir ce rappel de la situation. Que peut-on dire aujourd'hui de l'intégrité de votre pays ? Est-ce que l'armée, est-ce que vous-même maîtrisez l'ensemble du territoire ? Ou est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des poches, il y a une partie, notamment dans le nord du pays, qui aujourd'hui échappe au contrôle de votre autorité ?
Monsieur Dessin, merci beaucoup. Permettez d'abord que je vous remercie pour cet intérêt, cette considération pour le Mali. Nous sommes peu en ce qui nous concerne, c'est le Mali qui est important. Il y a un an, il y a juste un an et un jour, nous étions ici avec nos amis, en compagnie de nos amis, pour célébrer le retour du Mali sur la scène internationale. C'est un événement fabuleux à tous égards. Un souverain et plusieurs chefs d'État nous ont fait l'insigne honneur de se porter jusqu'à nous pour en être avec nous. Et de ce jour à aujourd'hui, beaucoup de choses sont passées. Mais il est bon, comme vous venez de le faire, de rappeler où en était le Mali, au moment où nous venions à faire.
Il était au bord de la partition, au bord de l'explosion.
Tout à fait. On peut même dire que c'était pratiquement fait. Donc il aura fallu un courage inouï. Je le dis, je ne cesse jamais de le répéter. Je le rappelais encore devant le Forum des jeunes africains, le Forum de la jeunesse africaine, réuni à Bamako, combien le président Hollande a été courageux, courage politique. Il en fallait pour prendre une telle décision. Mmh. Au moment précis où cela était requis. Si cela n'avait pas été, je ne sais pas si je serais par devant vous aujourd'hui.
Mmh. Et donc, alors, Monsieur le Président, on se souvient donc de cette intervention de la France, voulue par François Hollande. Aujourd'hui, à nouveau, on a le sentiment que le Mali n'est plus sur une actualité aussi incertaine, aussi dramatique. Maîtrisez-vous l'ensemble de votre territoire ?
Chers amis, nous lui sommes voulus. Et c'était l'engagement de tous autour de nous. Faire tout pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale, recouvre sa pleine souveraineté. Et c'était cela. Et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, jusqu'à la plus récente, la 2100, allaient dans ce sens-là. Et il faut croire que l'agenda qui s'est imposé à nous en a quelque part décidé autrement. Vous avez su l'actualité, ce qui s'est passé dans le Nord, singulièrement au mois de mai, et qui a eu comme épilogue le cessez-le-feu, a eu des suites.
Quelle leçon, justement, est-ce que vous avez tiré de ces événements lorsque l'armée, finalement, a voulu reprendre Kidal et passer à l'offensive, a dû battre en retraite, et il y a eu de nombreux morts et prisonniers lors de ces événements du mois de mai?
Madame Malibu, il y a eu une violation flagrante de l'accord de Ouagadougou. Fort de l'accord de Ouagadougou, qui inclinait chacun à raison garder, nous avions pensé qu'une mission du chef du gouvernement dans cette région comme dans d'autres régions était de mise pour s'assurer de l'effectivité de la mise en place des dispositifs que nous avions pris pour que le retour de nos populations déplacées se faisait dans l'ordre, dans la méthode telle que nous le souhaitions.
Et il n'est pas réussi à aller sur place en toute sécurité lui-même.
Et que cela était, M. Dessin, sécurisé. Ouais. Quelle ne fut notre surprise de voir l'accueil qu'il a reçu en arrivant à Kidal. Déclenchement carrément d'hostilité et de violence armée. En dépit de cela, nous avons incliné tout le monde à raison garder. Dans une déclaration aux nations maliennes, nous avons demandé l'apaisement et en conclusion, nous avions dit ce qui est encore notre conviction la plus forte. Qu'il ne saurait y avoir de solution que pacifique. Alors, qu'il faut donc que chacun, en le domaine qu'il est, le sien, sache que ce pays ne peut pas avoir d'autre formule aujourd'hui que se donner la main et aller à la table de négociation.
Puisque nous vous interrogions sur l'intégrité du territoire, ça signifie tout de même qu'aujourd'hui, les autorités du pays ne peuvent pas se présenter partout. Vous-même, Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez aller dans le nord du Mali? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez aller même à Gao, à Tombouctou?
Oui, madame, je peux le faire.
Mais vous ne le faites pas.
Je peux aller à Gao et à Tombouctou. Question simplement d'agenda, et je le ferai, madame.
Mais vous pouvez y aller en toute sécurité, monsieur le Président.
Et je suis...
Il n'y aurait pas d'hostilité envers votre personne.
Il se peut qu'il y en ait, mais je pense que les forces armées maliennes et onusiennes qui sont là pour cela, il faut bien expliquer pour qu'il y ait une mission de stabilisation au Mali. Mmh. Elle avait bien une vocation et une mission précise. Stabiliser le pays, faire en sorte que l'aller et venir soit tout à fait possible à l'ensemble de l'ordre malien. Et je dis encore une fois, madame Malibu et monsieur Dessin, que si la situation aujourd'hui est celle qui nous préoccupe et qui préoccupe la communauté internationale, ce n'est pas du fait du gouvernement du Mali. Parce que quand il y a eu le cessez-le-feu, obtenu grâce à l'entremise heureuse du président Abdelaziz de Mauritanie, nous avons observé scrupuleusement toutes les clauses du cessez-le-feu. Ça n'a pas été le cas des groupes armés qui en ont profité pour essaimer, pour s'installer à droite et à gauche. Et cela a été acté chaque fois que de besoin et porté à la connaissance de la communauté internationale.
Monsieur le Président, vous comptez aujourd'hui sur votre armée ou sur les négociations pour que le pays, pour que le Mali soit à nouveau sous votre autorité complète, pour qu'il n'y ait plus des poches contrôlées par des milices, par des djihadistes ou par des groupes armés?
Monsieur le Dessin, si je comptais sur mon armée, je n'irais pas en Algérie. Je suis fermement convaincu qu'il faut que nous parlions.
Avec tout le monde, Monsieur le Président?
Avec tous nos frères des groupes armés.
Quels qu'ils soient.
Sauf les terroristes. sauf ceux dont l'agenda est autre. Et il y a des faux-nés. Il y a des faux-nés. Vous savez, M. Dessin, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Irak et dans d'autres pays, je crois que le monde est averti aujourd'hui. Les groupes armés, ce sont nos frères. Mais en réalité, ils savent très bien eux-mêmes qui n'ont aucune puissance réelle face à celui qui est le réel Libyen.
Donc vous négociez avec tout le monde, sauf avec les groupes armés, où se situe la frontière? Car il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé.
Sauf avec les groupes armés, j'ai négocié avec les groupes armés aujourd'hui en Alger. Sauf les terroristes.
C'est une évolution de votre position quand vous êtes arrivé au pouvoir. À ce moment-là, en novembre dernier, quand nous étions venus, il n'était pas question de dialoguer avec les groupes armés. Vous avez évolué sur ce point?
Madame, vous savez, quand on gère un pays, quand on est hors de la gestion d'État, on a une vue des choses. Quand on a la décision en main, il s'agit de sorte de millions d'hommes. Ce que l'on ne ferait pas en tant qu'homme, dans sa singularité, la charge de l'État, madame, vous impose de faire, d'évoluer avec cela.
Est-ce que ça veut dire, monsieur le Président, qu'il peut y avoir une amnistie prononcée envers tel ou tel groupe de personnes pour tourner la page et aller vers une réconciliation?
Permettez que je réponde d'abord.
Bien sûr.
Sinon, on ne va pas avancer.
Allez-y,
Sans vous désobliger. Je crois que nous avons trouvé en place un accord préliminaire, au reste accord à la faveur duquel nous avons été élus. Et je crois que cet accord engagé à un dialogue inclusif national, deux mois après notre élection. Nous n'avons pas fait, madame, tout de suite, parce qu'il fallait des préalables pour nous. Vous savez, entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible et qui peut conforter et consolider, l'Assemblée de l'homme d'État n'a pas à balancer. Elle doit aller dans le sens de ce qui conforte demain. Et pour nous, ce qui confortait demain, c'était que, en entrant en fonction, nous créions les conditions d'un nouveau vivre ensemble, d'une nouvelle considération réciproque, d'une nouvelle capacité à se parler dans ce pays. Ce n'était pas le cas et ce n'était pas évident. Pourquoi nous avons organisé d'entrée de jeu les assises nationales sur le nord du Mali et ensuite les assises nationales sur la décentralisation? Toutes choses qui pour nous devaient baliser le chemin.
Pour revenir sur cette discussion, vous discutez avec qui exactement? Est-ce que vous êtes face à un front uni? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre ces groupes qui font que la négociation traîne?
Tout à fait, madame Malibou. Et nous le regrettons beaucoup. Et nous aurions aimé qu'il en fût autrement, mais vous savez, je crois que chacun assiste aujourd'hui à un constat, c'est que nos frères, les groupes armés, je l'appelle nos frères, nous sommes des Maliens. Et beaucoup d'entre eux avaient commerce fraternel tout à fait courant avec nous tous. Les événements font qu'aujourd'hui, on se positionne en État malien. Bon, bref. Aujourd'hui, le constat en Alger est un peu triste. C'est que, bon, il n'y a pas de. En face du gouvernement malien, c'est vrai, c'est un peu disparate. Mais ça, c'est pas.
Plusieurs interlocuteurs.
Pas à nous à gérer cela. Oui, on s'y conforme. Vous avez vu la tâche déjà ardue pour la mise au point d'une feuille de route. Et on a eu droit au même scénario. Alors, il a fallu discuter avec tel groupe le matin, tel autre l'après-midi.
Parce que ces groupes, justement, certains ont une feuille de route assez élaborée, assez avancée. Vous, au niveau du gouvernement malien, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Quel type de statut, de solution, vers quoi on se dirige, de votre point de vue?
Madame,
quelle est votre vision?
Mes négociateurs en Alger, je peux vous le dire, ne sont pas manchots. Ils ont absolument des propositions très concrètes qui ont été mises sur la table et dont vous savez d'ailleurs, puisque j'écoute bien votre station, même ce matin on en parlait, et ces propositions-là n'ont pas eu l'heure pour l'instant de trouver une réponse juste, une réponse favorable. En face d'une demande de fédéralisme, nous avons proposé la régionalisation, nous proposons une décentralisation très poussée. Et ce n'est pas non plus une nouveauté malienne. Je sais beaucoup de pays, des grands pays même, en lesquels il y a eu des velléités identitaires qui poussaient jusqu'à vouloir l'indépendance, l'autonomie, qui n'ont pas eu gain de cause. Parce qu'aujourd'hui, aucun État responsable dans ce monde n'incline vers cela. Bon, je crois que l'exemple foisonne. Nous avons dit, il est bon, il est sain. Il serait plus viable pour nous tous que nous entendions sur un nouveau pacte national. Et cette fois-ci, on nous dit oui, mais il y en a eu beaucoup.
Un gouvernement d'union nationale, par exemple ?
Ce n'est pas la solution, ce n'est pas la panacée, M. Dessin. Un nouveau vivre ensemble, réfléchi, une gouvernance renouvelée, et avec une garantie cette fois-ci,
Madame Malibo. Par rapport aux autres fois, justement, pour que...
Tout à fait, Madame. Et aujourd'hui, le changement, c'est quoi ? Il est notable. Hein. Il y a toute la communauté internationale qui est là avec nous en Alger, et qui sera garante de la suite de ces accords-là. Donc les accords, cette fois-ci, dont nous espérons, et dont nous sommes certains qu'ils seront conclus in fine, pas en Alger, mais à Bamako, ces accords-là seront absolument respectés en toutes leurs dispositions. Cela est une garantie internationale absolue. Vous savez, dans cette affaire du Mali, le Conseil de sécurité, pour la première fois, l'une des rares fois, s'est porté entièrement ici au Mali. Je l'ai reçu ici, au même lieu de Koulouba. Et je pense qu'ils ne sont pas partis avec de mauvaises impressions de nous.
Vous disiez à ce moment-là que vous étiez, en somme, forcé, obligé de négocier sous la pression de la communauté internationale. Est-ce que c'est effectivement le cas ?
Madame, vous savez, je crois connaître un peu la Charte des Nations Unies. C'est un regroupement de nations souveraines. Les États membres sont des États souverains. L'épine dorsale de la Nations Unies, c'est la souveraineté des États, San Francisco. Mmh. Et un État souverain, membre des Nations Unies, ne peut pas être agressé en son dedans ou dehors, sans que la communauté internationale s'en émeuve et trouve les voies d'apaisement en vue de garantir la paix internationale dont le Conseil de sécurité a la charge. Et si le Conseil, dans sa sagesse, a estimé que le cas malien, avec son évolution, devait passer par là, nous sommes obligés, Madame, d'y aller. Mmh. Il est clair. Mais aucun État souverain, de bon gré, ne va pas d'abord tout de suite essayer de négocier avec des groupes armés qui se disent décidés à sa perte. C'est cela que j'ai dit.
Si l'on revient...
En cela, je suis conforme à ma compréhension du droit international et à ma soumission aux décisions d'une communauté à laquelle j'appartiens. Mmh. Et que nous avons en plus sollicité. Puisqu'il ne faut jamais oublier que l'intervention française, quel que fut le courage de François Hollande, a été faite sous l'égide des Nations Unies et sur demande malienne.
Vous rendez une nouvelle fois hommage à François Hollande, à la France. Vous pensez que cette présence militaire française est une présence de longue durée? Vous savez qu'elle fait débat actuellement en France, quel que soit le nom de l'opération, Serval ou d'autres appellations. Les Français sont là pour longtemps. Vous avez besoin de longtemps pour maintenir l'équilibre, pour maintenir ici l'autorité?
Nous avons réglé cette question-là, je pense. Nous avons un accord de coopération en matière de défense et de sécurité, désormais conclu avec la France. Ça donne absolument la base légale de cette coopération-là.
Pour combien de temps,
qui n'est pas une présence militaire de type néocolonialiste ou autre. On a dit beaucoup de choses. Il s'agit simplement d'un accord de coopération militaire et de sécurité, comme nous en concluons avec d'autres pays, avec d'autres États amis. Et je crois que cela est déjà d'ailleurs était déjà dans la pratique. La France a coopéré de tout temps avec le Mali, post-colonial, en matière de sécurité et de défense.
Alors, Monsieur le Président, je vais vous proposer un point d'actualité sur nos antennes respectives de Radio France Internationale et de TV5, et nous vous retrouvons pour d'autres questions au-delà de la situation, effectivement, de l'intégrité de votre pays.